Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre série L'importance de la rédemption. Aujourd'hui, nous en sommes à l'étude numéro 2 et nous aurons trois petites études, trois petits messages que nous allons entreprendre ensemble. Premièrement, qui sont nos trois ennemis? Quelle surprise! C'est exactement comme si l'on recevait une gifle en pleine figure. Après la découverte de Dieu, c'est la découverte du mal. Je veux dire ceci. Avant la nouvelle naissance, on est plus ou moins conscient de l'existence du mal. Les guerres, les famines, les camps de concentration, la pollution, la corruption, toutes ces choses ne nous laissent pas insensibles. Mais une fois que nous sommes nés de nouveau, nous voyons le mal à la lumière de la face de Dieu prendre pour nous des proportions terribles. Nous en devenons conscients comme jamais auparavant. Nous souffrons de voir dans quel état se trouve réellement le monde, l'incroyable folie des hommes, leur plaisir à faire le mal, leur ignorance de Dieu, leur vie sans horizon spirituel. Nous voudrions que tous comprennent ce que nous savons. Notre cœur est pénétré de la souffrance de Dieu, de cette douleur exprimée en Christ crucifié, de l'amour de Dieu pour le monde qu'il a pourtant rejeté. Nous commençons à mesurer l'étendue du mal et à connaître sa véritable nature. Parce que tu appartiens maintenant à Dieu, les forces du mal se dressent contre toi. Elles ne peuvent te vaincre, car Christ est plus fort qu'elles. Mais elles sont puissantes et dangereuses. Tu fais donc bien de connaître leurs dispositions et de les affronter avec les armes de Dieu. Le mal provient de trois sources: du diable, du monde et de la chair. Ton premier ennemi, c'est donc le diable. Le Moyen Âge nous a légué une conception du diable fausse et absurde. Les gens s'imaginent souvent que c'est une bête plus ou moins mythologique, encornée et habitant l'enfer, qui sort de temps à autre pour nous pousser à commettre un péché quelconque. La vérité biblique à son sujet est bien différente. S'il vous plaît, lisez Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 19. Ensuite, Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 14. Les deux passages ne peuvent s'appliquer à un autre que Satan. Il nous révèle que cet être fut créé par Dieu sans péché et qu'il était le plus puissant des esprits, d'une beauté et d'une intelligence extraordinaire. Il était même le chérubin protecteur de la présence de Dieu. Mais son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Il n'était pas satisfait de son état. Il voulait être semblable au Très-Haut. En cet instant, il fut précipité et perdit son intimité avec Dieu. Mais il est toujours en liberté et Dieu permet qu'il détienne provisoirement une grande autorité. Mais cela, il est devenu, malgré cela, il est devenu l'ennemi totalement implacable de Dieu. Son nom, vous le savez, c'est Satan, Lucifer. Cela veut dire l'ennemi. Sachant que le jour viendra où il sera jeté dans l'abîme et finalement en enfer, le feu éternel a été préparé spécialement pour lui et ses anges. Les hommes qui le suivent partageront malheureusement, inévitablement, son sort. Cet être terrible a entraîné avec lui dans sa chute, semble-t-il, le tiers des anges. Il a encore accès au ciel et dans le monde invisible, et il combat même les anges de Dieu et accuse les disciples de Christ. Car le mot diable veut dire le calomniateur. C'est donc l'accusateur qui attaque par derrière. Comme dernièrement, ce soldat en Angleterre, par derrière, avec un cutter ou un poignard, il contrôle une vaste hiérarchie démoniaque dans les lieux célestes que nous devons affronter avec les sept armes de Dieu. Ces armes ne comprennent cependant aucune défense pour celui qui tourne le dos à l'ennemi. Le diable cherche qui il dévorera, mais nous devons lui résister avec une foi ferme. Et là, il fuira loin de nous, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le but de Satan n'est pas nécessairement celui de pousser les gens à pécher, mais surtout de les détourner de la vérité de Christ qui seul nous donne une image juste de Dieu. Il veut fausser notre idée de Dieu afin de se faire passer lui-même pour Dieu. Il n'a jamais changé l'objectif. Il veut être semblable au Très-Haut. Pour lui, peu importe qu'un homme soit philosophe ou ignorant, citoyen respectable ou débauché, religieux ou athée, ce qui l'intéresse, c'est l'aveuglement de cet homme en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Il est donc sans pitié. Son deuxième ennemi, c'est le monde. La Bible fait une distinction entre la terre et le monde. Lorsque Dieu créa la terre, il qualifia tout son ouvrage de très bon. La Terre, c'est notre planète matérielle dont toute la beauté et les multiples formes de vie reflètent la grandeur et la joie du Créateur. Dieu plaça le premier homme et sa femme dans le jardin de cette terre et les appela ensemble son image. Et il dit que c'est très bon. Oui, quelle beauté, on peut bien le dire, quelle beauté que le mariage, comme Dieu le concevait, c'est tout autre chose que le tampon définitif de l'État, selon le président Hollande. C'est pas ça le mariage, le véritable. Et c'est pour ça qu'il y a de l'opposition, de la révolte, on le comprend. Quelle tragédie que la chute soit intervenue. La théologie chrétienne, à partir du IIIe siècle, fut profondément influencée par la philosophie grecque, surtout par le néoplatonisme qui introduisit la notion d'une opposition entre l'âme et la matière. Provenant presque certainement d'Asie, elle enseignait que l'âme seule est pure, alors que la matière est essentiellement mauvaise. Elle est encore aujourd'hui à la base de l'hindouisme et du bouddhisme. Elle explique que l'ascétisme et aussi l'immoralité de l'Europe, ainsi que d'autres anomalies dans l'histoire de la chrétienté. Or, cette conception est en flagrante contradiction avec la pensée biblique. Le monde, selon la Bible, est tout autre chose que la terre. Il est foncièrement mauvais. L'expression « le monde » en grec, c'est « cosmos ». Cela signifie quelquefois les cieux et la terre, ou si vous voulez, l'univers, le vaste système cosmique dont Dieu est l'auteur. Mais presque toujours, elle signifie le système mondial que les hommes se sont construits et que Dieu condamne. Il n'est pas soumis à l'autorité de Dieu. Il a même envahi la terre en la polluant, en l'abîmant et en la dégradant par la folie et par ses injustices. La Bible révèle la vérité étonnante et effrayante que le Dieu de ce monde, c'est Satan. Il est appelé également le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Jésus l'appelle le prince de ce monde et il ajoute qu'il est déjà jugé, heureusement. Puisque son désir est d'être semblable au Très-Haut, il encourage et inspire chez l'homme la création d'une civilisation avancée, le développement des arts, des sciences, de la religion même, afin de pouvoir s'attribuer une gloire semblable à celle de Dieu. Puisqu'il rejette le Dieu véritable, celui dont Jésus-Christ est l'image, les hommes adore inévitablement un autre Dieu, c'est-à-dire celui qui est son ennemi. Saint Paul dit que Satan a aveuglé l'intelligence des incrédules pour les empêcher de comprendre l'évangile de Christ. L'apôtre Jean dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Il n'est donc pas étonnant que Dieu nous interdise l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Jésus-Christ avertit les disciples disant, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Comprenons le bien. Le monde est notre ennemi. Il n'a aucune place pour Jésus-Christ. À sa naissance, le monde le renvoya à l'écurie et dans la fleur de son âge, le condamna, l'injuria, le tortura et le clouant sur un tronc d'arbre. La terre, malgré son exploitation par l'homme, est encore une joie pour l'enfant de Dieu. Chaque fleur, chaque aurore, chaque créature est pour lui un miracle de sagesse divine. Mais il voit le monde plutôt comme un sujet de tristesse, d'angoisse, alors qu'autrefois, il s'y sentait chez lui, Maintenant, tout est changé. Il sait qu'il n'appartient plus à son système ni à son Dieu. Il appartient à un autre royaume, à celui du Dieu véritable. Jésus-Christ dit, « Prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. » Et encore, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé. Chers amis, chers auditeurs et auditrices, son troisième ennemi, c'est le péché qui habite en toi comme en moi. Mais le pire, ce qui nous choque le plus, c'est la découverte de la présence du mal en nous personnellement, malgré la nouvelle naissance. Nous constatons avec chagrin et toute humilité que nous sommes encore capables de pécher, et oui, nous sommes conscients de pensées, de paroles et d'actes qui ne glorifient pas Dieu. J'ai honte de vous dire que une nuit où j'étais peut-être en demi-sommeil, eh bien, des pensées bizarres se sont introduites dans mon cerveau, dans mes pensées. Et heureusement que j'ai réagi et j'ai chassé cela par le saint nom de Jésus-Christ et je me suis mis sous le sang de Christ. Donc, vous voyez, malgré que j'ai probablement bien le double de l'âge que vous avez, eh bien, ça peut arriver à tout âge. Nous avons jamais fini, jamais terminé de lutter ici-bas. Nous sommes avec raison profondément troublés. Certains enfants de Dieu le sont au point même de douter de leur salut. Et oui, comment se disent-ils ? Comment un enfant de Dieu peut-il encore pécher ? Ça va pas, non ? Notre conscience morale est alors terriblement sensibilisée par l'Esprit et la Sainte Parole de Dieu. Nous commençons à identifier une foule de péchés que hier encore nous tolérions ou dont nous étions tout à fait inconscients. Nous sommes écrasés par le sentiment d'indignité, de culpabilité vis-à-vis de ce Christ qui a payé nos faillites au prix de son sang précieux. Mais prends courage, mon frère, ma sœur. L'apôtre Paul lui-même, dans ses écrits, il avoue qu'il avait le même problème que toi. À ce propos, il faut étudier surtout les chapitres 6, chapitre 7, chapitre 8 de sa merveilleuse lettre aux Romains. Dans ces chapitres, il analyse à fond le problème et nous montre la solution divine. Ces chapitres sont peut-être l'écrit le plus profond de toute la littérature du monde. On peut passer toute une vie à les étudier sans les épuiser. On y découvrira toujours davantage de richesses et de significations. Il faut donc s'y prendre jeune. N'attendez pas mon âge, bientôt 88 ans. Dans le chapitre 7, où l'apôtre Paul décrit son angoisse et les conflits qui agitent son âme, il parle de la puissance du péché. Dans le chapitre 8, il décrit l'action toute-puissante de l'Esprit de Dieu qui triomphe du péché dans sa vie. Il me vient à l'esprit que j'ai dit 88 ans. Non, j'ai 86 ans, mais ce n'est pas tout faux de dire que je vais, si Dieu le permet, lentement mais sûrement, contre les 90 ans. Je ne suis donc plus un jeune homme, avec un pied dans la terre, comme on dit, je crois, en français. Il reconnaît la puissance également du péché. Eh oui, et il ne la minimise pas. L'apôtre Paul n'a jamais minimisé le péché, mais il affirme que la puissance de Dieu est encore plus grande. Dans le chapitre 6, il parle de deux esclavages, l'esclavage du péché et l'esclavage de Dieu. Or, qu'il le veuille ou non, l'homme est esclave. Il est maîtrisé par un virus qui envahit tout son être et que la Bible appelle le péché. C'est un véritable cancer spirituel, une maladie mortelle contre laquelle aucun homme, fût-il le plus puissant, ne peut résister. Une seule cellule de leucémie dans le sang peut suffire pour éventuellement nous condamner à mort. Elle est plus forte que nous. Le péché est un esclavage. Nous ne pouvons absolument pas y échapper à moins de changer de maître. Mais quand je l'accepte, l'autorité de Jésus-Christ, quand je lui abandonne mes droits, la puissance du péché est brisée. Gloire à Dieu. Paradoxalement, je suis affranchi, je deviens libre, non par mes efforts, mais par une force supérieure à celle du péché, par le Christ qui habite en moi. Ma volonté, enfin libérée, trouve sa raison d'être, en s'intégrant dans celle de mon Créateur. Nous ne pouvons rien faire pour naître de nouveau, ni pour mériter le pardon de Dieu. Nous l'acceptons comme une grâce. De la même manière, nous ne pouvons rien faire pour nous délivrer de la puissance du péché. Nous n'avons qu'à accepter la délivrance comme une grâce de la part de Dieu. L'Esprit de Dieu n'oblige jamais un pécheur à se convertir. Il le laisse libre d'accepter ou de refuser. Il respecte aussi la volonté du croyant. Il ne le sanctifie pas de force. Dès que nous le laissons libre, il agit. La fonction de l'Esprit Saint de Dieu est comme la sève qui monte dans l'arbre. Elle traverse les branches pour former les feuilles, la fleur, les fruits et la semence, permettant à l'arbre de se reproduire. Au printemps, lorsque ce processus commence à se manifester, une somme extraordinaire d'énergie est libérée. Mais nous ne voyons pas l'arbre faire un effort quelconque. La vie agit en silence. De la même manière, le Saint-Esprit produit spontanément la vie de Christ en nous. La fleur de son caractère apparaît pour donner le fruit d'une maturité spirituelle. Notre deuxième petit volet, ou si vous voulez, petite étude, eh bien, je vous demande, mes chers auditeurs, quel est votre conflit intérieur ? Le Nouveau Testament enseigne très clairement que l'enfant de Dieu a, pour ainsi dire, deux personnalités ou deux natures. En étudiant les épîtres de Saint Paul, nous sommes conscients de la difficulté qu'il avait à trouver des mots pour exprimer ces choses. C'était la première fois dans l'histoire du monde qu'on en parlait. Sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, il a finalement choisi certains mots très courants, mais en leur donnant une signification céleste et spirituelle. Dans cette courte étude, nous ne pouvons pas approfondir ces vérités merveilleuses, mais j'espère au moins de les clarifier. Avant d'entendre la suite, il serait bon que tu regardes très attentivement Romains chapitre 7, versets 14 à 25, pour mieux saisir cette explication. Saint Paul dit au verset 15 de Romains chapitre 7, « Ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je haïs, je ne sais pas bien dire ce que je hais, puisque je suis de langue allemande, alors j'arrive mieux à dire haïr. Voilà donc ce que je fais. Il y a en quelque sorte deux Paul. Rappelons-nous qu'avant sa conversion, Paul s'appelait Saul. Je crois. Nous pourrions relire tout ce passage en faisant la distinction entre Saul et Paul et Paul. Entre, si vous voulez, l'ancien Saul, l'homme naturel avant sa conversion, et le nouveau Paul, l'enfant de Dieu qui a rencontré le Christ sur la route de Damas. Ces deux personnalités, se retrouvent totalement liées, exactement, absolument, dans le même homme. Paul dit « je ». Mais il pense tantôt à Saul et tantôt à Paul. Il faudrait donc relire ce passage de la façon suivante. Essayons de le faire ensemble. Je, Saul, ne fais pas ce que je, Paul, veux. Mais je, Saul, fais ce que Paul haït. Or si je, Saul, fais ce que je, Paul, ne veux pas, je, Paul, reconnais par là que la loi est bonne et maintenant ce n'est plus moi, Paul, qui le fait, mais c'est le péché qui habite en moi, Saul. Et au verset 20, si je, Saul, fais ce que Paul ne veut pas, ce n'est plus moi, Paul, qui le fait, c'est le péché qui habite en moi, c'est Saul. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi ou ce principe, quand je, Paul, veux faire le bien, le mal est attaché à moi, à Saul. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, Paul, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend Saul captif de la loi ou de l'autorité du péché qui est dans mes membres. Et puis, il s'écrit au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps ?» ou mieux traduit, de la force ou de la réalité de cette mort. Mais Paul finit triomphalement, « Gloire soit donc rendue à Dieu. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, que je suis délivré. » C'est donc là le sens de ce passage. Ainsi donc, l'apôtre Paul reconnaissait en lui le conflit de deux personnalités, l'ancienne, hostile à la loi de Dieu, refusant de se soumettre à sa volonté, et la nouvelle, née de Dieu, toujours prête à faire la volonté de Dieu et vivre selon sa loi. Et tous, nous faisons la même expérience. Après la nouvelle naissance, nous découvrons au-dedans de nous un terrible conflit. Nous avons en effet deux personnalités. L'ancienne ne s'est jamais souciée de Dieu et refuse à présent toute soumission à sa volonté. La Bible dit qu'elle est incurablement mauvaise et tortueuse par-dessus tout. Le Nouveau Testament affirme que cette ancienne nature est irrécupérable. Elle ne peut être ni améliorée ni réformée. Alors que toutes les religions, toutes les philosophies essaient d'améliorer cette ancienne nature, eh bien Dieu refuse d'en tenir compte. Il veut tout recommencer, tout recréer, recréer une toute nouvelle vie et de refaire ta et ma personnalité. Chers auditeurs, la nature nous donne beaucoup d'analogies. La terre en elle-même est morte et ne peut produire la vie. Elle dépend de la semence qu'on y jette. Mais la semence, en germant, transforme la terre morte en une plante vivante. Un rosier, un chêne sont composés de terre morte, que le principe de vie a saisi et intégré dans un organisme vivant. Si l'arbre est composé de terre, ce n'est pas la terre qui a fait l'arbre, c'est la vie qui a transformé la terre en arbre. Dieu nous dit que notre ancienne nature est incapable de faire ou même de désirer la volonté de Dieu. Dans notre âme morte, Dieu jette la semence de vie, c'est-à-dire la parole de Dieu. Animée de l'Esprit de Dieu, celle-ci saisit les éléments de notre ancienne personnalité pour les transformer en une nouvelle personnalité à l'image du Christ. C'est cela, le miracle de la nouvelle naissance. Ainsi donc, tu portes en toi deux personnalités. Tu es Saul, mais aussi Paul. Jamais tu ne pourras changer la nature de Saul. Jamais tu ne pourras en faire quelque chose de valable pour Dieu. Par contre, ta nouvelle personnalité désire à outrance faire la volonté de Dieu et ne saurait faire autre chose. Saint Paul l'a décrit en ces termes saisissants. C'est Christ qui vit en moi. Elle découle directement de Dieu. Dieu l'appelle son enfant. Or, l'enfant ressemble à son père. L'ancienne nature est toujours en révolte contre Dieu. Lorsque tu pèches, c'est ton ancienne nature qui pèche et non la nouvelle. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, c'est ta nouvelle nature qui l'a fait et jamais l'ancienne. La nouvelle nature est incapable de pécher. Celui qui est né de Dieu, nous dit Saint Jean, ne pèche pas et ne peut même pas pécher. Mais il nous dit aussi dans cette même épître que nous faisons de Dieu un menteur et nous séduisons nous-mêmes si nous prétendons être totalement sans péché. Moi, humblement, je dois vous avouer devant tous ceux qui écoutent maintenant que je ne suis pas, malheureusement, sans péché. Et il faut être humble pour le reconnaître. Apparemment, Jean se contredit. Mais en fait, ce n'est pas du tout cela. Comme l'apôtre Paul, il constate l'existence de ce conflit chez le chrétien. Les gens autour de nous ne comprennent rien de ces choses. D'ailleurs, il n'existe aucun vocabulaire dans le langage courant pour les décrire. L'homme n'a pas le langage céleste, disait un certain savant. Dieu a dû créer toute une terminologie pour nous communiquer les vérités insaisissables. C'est ce qu'il a fait dans la Sainte Bible. Avant de terminer ce chapitre, ce petit message, il serait bon de noter les expressions utilisées dans le Nouveau Testament pour décrire les deux natures du croyant. L'ancienne nature est appelée le vieil homme, le péché qui habite en moi, le péché dans la chair, parfois le péché tout court, quelquefois la chair. Et cette dernière expression est très courante dans les écrits de saint Paul. Cependant, il ne faut pas la confondre avec le mot « corps », pour lequel il existe en grec un mot différent. Selon saint Paul, le corps du croyant est le temple du Saint-Esprit. Mais la chair est plutôt la racine du péché dans notre âme, aussi bien que dans notre corps. Au retour du Christ, dans notre corps ressuscité, nous serons à jamais débarrassés du péché et de toutes ses racines. Alléluia. La nouvelle nature porte de même plusieurs noms. Entre autres, on note le nouvel homme, l'homme intérieur, la nature divine, celui qui est né de Dieu, le Christ qui vit en moi. Mais la plus courante dans les écrits de saint Paul, c'est l'esprit, écrit généralement dans nos Bibles avec un « et », je le dis à l'allemande, A, B, C, D, E, F, G, etc. Donc, c'est un « et » minuscule. Et cette distinction ne nous permet pas d'oublier le rapport étroit entre l'Esprit Saint de Dieu et notre esprit régénéré. Ils sont organiquement liés, comme l'enfant et sa mère avant la naissance. Il y a dans quelques passages une sorte de divine confusion entre les deux. C'est pour cela que saint Paul dit « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Nous devons éviter de confondre âme et esprit avec un petit « et ». C'est notre esprit. Le grand « et », c'est le Saint-Esprit. La philosophie grecque exaltait l'âme au-dessus de tout. Mais pour Dieu, l'âme de l'homme est morte à moins qu'elle ne possède ce que la Bible appelle l'esprit. L'esprit, le nôtre. L'homme naturel même, dans ses meilleurs moments, fut-il le scientifique le plus génial, est incapable de comprendre les choses de Dieu, puisque c'est spirituellement qu'on les discerne. Il lui manque ce sens spirituel qui permet de connaître Dieu et qui lui-même est esprit. Son âme est donc en quelque sorte plafonnée par une barrière d'inconscience qui sont infranchissables. Le mot « âme » en hébreu, c'est « nephesh » et en grec, psyché, cela signifie souffle, tout comme le mot esprit hébreu ruach, grec pneuma. Mais Dieu les met en contraste, au point de dire que l'intellectualisme sans l'amour est charnel, psychikros, et démoniaque. Alors que l'âme de l'enfant de Dieu est pénétrée, elle est éclairée, transformée par son esprit régénéré. Il y a donc une solution au problème de ton conflit, mais elle est miraculeuse. La nouvelle naissance est miraculeuse. Elle est commencement, c'est le commencement, et elle est la vie éternelle. Et la vie éternelle est donc un miracle perpétuel. Nous arrivons à notre troisième petit discours, avant de terminer par la prière, si on a la place. Toi qui écoutes, tu peux être le temple du Saint-Esprit. Imagine-toi, tu es le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Qui pourrait le croire si la parole de Dieu ne l'affirmait? En effet, dans le Nouveau Testament, au moins une trentaine de passages indiquent clairement que tout enfant de Dieu est la demeure du Saint-Esprit. En voici quelques-uns. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Là, il est dit, ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Trois fois, dans ce seul verset, Saint Paul répète de trois façons différentes que les chrétiens de Corinthe avaient le Saint-Esprit en eux. Paul ne distingue pas ici entre les forts et les faibles, mais il parle de tous. D'ailleurs, ce passage concerne non seulement les chrétiens de Corinthe, mais aussi tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. En outre, la majorité des membres de l'église de Corinthe étaient très imparfaits. Saint Paul leur reproche, parmi d'autres fautes, des querelles, des divisions, la tolérance d'une certaine immoralité, du désordre au moment même de la Sainte Cène et une confusion troublante au sujet de certaines doctrines allant jusqu'à mettre en doute la résurrection. Il leur reproche d'être charnel et enfant. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 et 2. Pourtant, ils n'hésitent pas à dire qu'ils avaient le Saint-Esprit en eux. Ce seul verset suffirait pour mettre hors de doute le fait que tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. Mais Saint Paul dit encore ceci. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Saint Paul ne dit de lui-même et au sujet des chrétiens de Corinthe, « Nous sommes le temple du Dieu vivant ». Et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 8, aux chrétiens de Thessalonique, il dit « Dieu vous a aussi donné son Saint-Esprit ». C'est exaltant. Si Dieu ne le disait pas lui-même, jamais je n'oserais croire qu'il daigne venir habiter en moi et m'appeler sa maison. Non seulement notre cœur, mais notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quel privilège, ma chère sœur et mon cher frère, quand tu marches dans la rue, eh bien, tu peux être très fier, car dis-toi bien, que Dieu marche dans la rue avec toi, oui, au-dedans de toi. Celui qui a créé l'univers, qui tient toutes choses en existence, qui est la source de toute intelligence et de toute énergie, il est en toi, en train d'animer conscience, consciemment tout ton être. Je répète parce que j'ai croché avec ma langue. Donc je redis la phrase. Dis-toi bien que Dieu marche dans la rue avec toi, au-dedans de toi. Celui qui a créé l'univers, qui tient toutes choses en existence, qui est la source de toute intelligence et de toute énergie, Il est en toi, ma chère sœur et mon cher frère. Il est en train d'animer consciemment tout ton être. Il est donc là, dans le but d'accomplir en toi tout le dessein qui remplit son cœur. Même les chrétiens posent parfois la question « mais, au fond, qui est le Saint-Esprit ?» Eh bien, pour beaucoup de gens, malheureusement, c'est un sujet mystérieux, trop ignoré dans les églises et autour duquel il y a encore de nos jours une immense confusion. Pourtant, la Bible nous donne un enseignement très clair et très complet dans ce domaine. Il suffit de la lire pour en être convaincu, n'est-ce pas ? N'exagérons pas les choses et n'extrapolons pas ce qui n'est pas avec ce qui est. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est ce que je pense. La Bible ne nous laisse aucun doute à ce sujet et nous conduit aussitôt au milieu du plus grand des mystères, celui de la Trinité. Le mot « Trinité » ne se trouve pas dans l'Écriture sainte, évidemment, mais il a été adopté dans le vocabulaire chrétien bien longtemps après l'époque apostolique pour définir la vérité biblique de Dieu et pour dénoncer les hérésies concernant la personne de Christ et du Saint-Esprit. La doctrine de la Trinité est pourtant affirmée dans la Sainte Bible avec une clarté indiscutable. On peut lire que Dieu est amour. Incontestablement, Dieu créa l'univers afin d'avoir quelque chose à aimer, afin aussi d'être aimé par des créatures intelligentes comme les hommes et les anges. Mais avant que l'univers fût Dieu, que pouvait-il aimer ? On ne peut pas aimer le néant. Et si Dieu est amour, cela signifie que Dieu n'existe pas sans aimer. Avant la création de notre univers, Dieu avait nécessairement en lui-même l'objet de son amour, qu'il appelle son Fils bien-aimé. Entre le Père et le Fils, il y a un amour réciproque, éternel et inaltérable. Dieu veut faire connaître son amour à tous les êtres intelligents qu'il a créés. Mais il est impossible à l'homme de connaître le fond du cœur de Dieu. Il faut que Dieu lui-même se dévoile et communique sa pensée, ce qu'il fait par le moyen de sa sainte parole. Jésus-Christ est appelé dans la Bible la parole de Dieu. Il est l'expression de la pensée de Dieu qui est l'amour absolu. Cependant, la parole est inaudible si elle n'est pas portée par le souffle. L'homme est incapable d'entendre la sainte parole divine si Dieu ne souffle pas. Lorsque Dieu accompagne sa parole de l'énergie de son souffle, c'est-à-dire de son Esprit Saint, elle devient intelligible à la conscience de l'homme. Le ciel s'ouvre pour lui en découvrant l'amour de Dieu. Évidemment, cela a l'air compliqué pour certains. Je le répète, l'homme est incapable d'entendre la sainte parole divine si Dieu ne souffle pas. Et lorsque Dieu accompagne sa sainte parole de l'énergie de son souffle, ça veut dire, et c'est là qu'il y en a qui ont de la difficulté à le comprendre, et je les comprends. C'est pour ça, je répète, lorsque Dieu accompagne sa parole de l'énergie de son souffle, c'est-à-dire de son Esprit Saint, elle devient intelligible à la conscience de l'homme. Le ciel s'ouvre pour lui en découvrant l'amour de Dieu. Le mot esprit vient du latin spiritus, qui signifie justement le souffle. Spiritus est la traduction du mot grec pneuma, qui veut dire exactement la même chose. En français, nous distinguons entre esprit et souffle, mais le latin et le grec ne font pas cette distinction et utilisent le même mot. Jésus, dans Saint Jean, chapitre 3, versets 5 à 8, disant que le vent souffle où il veut, parle en même temps d'une certaine action de l'Esprit Saint de Dieu. En grec, langue originale du Nouveau Testament, c'est évident puisque pneuma veut indifféremment dire souffle ou esprit. Le Saint-Esprit est donc le souffle de Dieu, comme Jésus-Christ est le Fils et la parole de Dieu. Si la parole exprime la pensée du cœur, le souffle, par contre, rend audible la parole. Ainsi, le Fils de Dieu, c'est Dieu qui s'exprime, qui démontre la joie de son amour. L'Esprit de Dieu, c'est son souffle qui rend cette sainte parole accessible à l'homme. Il serait intéressant d'approfondir cette vérité, mais on ne peut pas tout expliquer sur un CD. Une chose est certaine, c'est Dieu qui agit en toi. C'est donc le souffle ou l'Esprit de Dieu qui agit en toi pour former dans ton sein l'image de Christ. D'abord, il cherche à te révéler le Christ, ensuite, il cherche à l'exprimer au travers de toi. Une fois que tu as accepté la lumière, tu deviens toi-même une source de lumière. Dieu commence à briller au travers de la vie. Tu deviens le reflet de son amour. Quand tu ouvres ton cœur à Dieu, ton Esprit Saint, son Esprit Saint, il se fait qu'il va te pénétrer. Je répète cette phrase, quand tu ouvres ton cœur et ton esprit à Dieu, son Esprit Saint va te pénétrer. La lumière du printemps évoque la floraison de la terre, le visage d'une jeune fille peut bouleverser le cœur d'un jeune homme avec la révélation de l'amour. Ainsi, le Saint-Esprit, en entrant chez toi, apporte la vie de Dieu. Alors qu'avant tu étais mort dans tes péchés, selon Éphésiens chapitre 2, verset 1, l'instant d'après, ton esprit mort ressuscite, tu nais d'en haut, ton âme reçoit la vue et tu contemples le miracle de la beauté de Dieu. Tu commences à regarder Dieu en face. Tu es un bébé qui naît dans le royaume de Dieu. Un véritable miracle s'opère en toi et Dieu l'appelle la nouvelle naissance. C'est le début de la vie éternelle. Et tout cela, le Nouveau Testament l'affirme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est lui qui façonne l'image du Christ dans ton âme et c'est lui qui écrit la loi de Dieu sur ton cœur et transforme toute ta conception de la vie. C'est lui qui crée l'amour de Dieu en toi, c'est lui qui te révèle la face de Dieu en Christ. Tu commences à connaître le ciel dans ton expérience. Et la suite. Après avoir commencé par l'Esprit Saint, dit Paul dans Galates chapitre 3, verset 3, allez-vous maintenant finir par la chair? C'est l'Esprit de Dieu qui a commencé cette œuvre fantastique en nous. C'est lui seul qui peut la développer. Comme saint Paul ajoute, si nous vivons par l'esprit, marchons, avançons, fonçons par le moyen de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 25. On ne peut vivre la vie chrétienne sur cette terre autrement que par la puissance du Saint-Esprit, pas plus qu'on ne peut devenir un enfant de Dieu sans l'Esprit-Saint. Dans un très prochain CD, nous expliquerons « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Chers amis, nous terminons par la prière et je voudrais avant, puisque je vois que j'ai encore un peu de place, vous dire les paroles d'un ancien cantique. Non, rien en ma personne n'est digne d'être aimé. Ce que Jésus me donne peut seul être estimé. Jésus est ma justice, ma gloire, mon appui. Il m'aime, il m'est propice et je puis tout en lui. Oui, malgré la tempête, Jésus, à qui je suis, toujours sous sa houlette, gardera sa brebis. Dussé-je, pour mon maître, perdre tout ici-bas ? À lui seul, je veux être, ne le quitte pas. Je ne le quitte pas et je te demande, chers auditeurs et auditrices, ne le quitte jamais. Prions. Que nous sommes heureux, ô notre Père, de pouvoir ainsi chaque jour nous réunir autour de ta parole et écouter ensemble ta voix qui nous parle comme si toi-même tu paraissais au milieu de nous pour nous instruire, nous fortifier, nous consoler, affermir nos cœurs en toi, que nous la recevions dans nos cœurs comme ce qu'elle est en réalité, la sainte parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. Qu'elle soit notre secours constant dans ce saint combat de la foi auquel ton apôtre exhortait Timothée, afin que nous soyons sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans reproche, nous le sommes, malheureusement pas. À combien nous nous en sentons loin encore? Et si notre cœur nous condamne, ô toi Seigneur, qui es plus grand que notre cœur, ne nous condamneras-tu pas beaucoup plus? Nous te rendons grâce de ce que tu nous as donné un sauveur et de ce que son saint nom, nous pouvons, par son saint nom, nous pouvons nous approcher de toi comme de notre Père. Au milieu de toutes nos défaillances, de toutes nos infirmités, nous nous réfugions au pied de sa croix. Préserve-nous de ne jamais mettre notre confiance dans l'instabilité des richesses, que nous la mettions uniquement en toi seul, le Dieu vivant, qui nous donne toutes choses abondamment pour pouvoir en jouir. Ne permet pas que les soucis, même ceux qui nous paraissent les plus légitimes, étouffent en nous ta sainte parole, mais que nous nous remettions en paix entre tes mains, avec tous ceux qui nous appartiennent au saint nom de notre Sauveur et Seigneur bien-aimé. Amen. Amen. Et, chers amis, n'oubliez pas que tous ceux qui ont accepté la main tendue du Seigneur, que ce soit il y a longtemps ou que ce soit maintenant, le Seigneur vous aime. Et si moi je vous aime de tout mon cœur et de tout mon esprit, bien que je le sans, et je le fais de tout mon cœur, ce n'est rien par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit vous aiment incroyablement, incommensurablement. À bientôt à nouveau, demain matin, pour la suite de cette série. Au revoir, très chers amis.